Quelles sont les nouvelles de ces derniers jours? Le 9 février, j'apprends qu'à grand renfort de propagande sur les médias, un livre intitulé « Une Suisse avec un conseil fédéral sans UDC » va sortir au printemps. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est surtout très révélateur, ne serait-ce que par le sous-titre annoncé du livre. Quel est le sous-titre de ce livre? Plus de démocratie, de solidarité et moins de blocher. Je me pose évidemment une question. Laquelle? Comment peut-on refuser que soit représenté au Conseil fédéral le premier parti du pays et se prétendre démocrate? Apparemment, un homme, en entraînant d'autres, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif, en est capable. C'est Andreas Gross. Comment justifie-t-il cette position? Blocher ne jouerait pas le jeu de la collégialité et multiplierait les dérapages. Bref, il serait l'empêcheur de tourner en rond, à qui il faudrait clouer le bec. Cette conception de la démocratie était autrefois qualifiée de populaire et me rappelle les heures les plus sombres, etc. Avez-vous d'autres nouvelles à nous apprendre? Le 10 février, j'apprends que la Commission européenne hausse le ton à propos de la fiscalité suisse, par la voix de son directeur général des relations extérieures, l'ineffable Eneco Landaburu. Celui-ci, dans un entretien accordé au Temps, estime que les pratiques fiscales cantonales bafouent l'accord de libre-échange de 1972 entre l'Union européenne et la Suisse. Cela vous surprend? Non, pas vraiment. M. Landaburu promet même une résolution de la Commission européenne pour le 13 ou le 14 février, dans laquelle la Suisse sera accusée de ce forfait. Je remarque que M. Landaburu n'a pas l'habitude de la démocratie, qui à sa décharge n'est pas la caractéristique principale ni le point fort de l'Union. Du coup, il ne comprend pas que seul le peuple a le dernier mot en Suisse, et que la fiscalité est du ressort des cantons en vertu du principe de subsidiarité. On a rebattu les oreilles des Européens avec ce principe, au moment de l'adoption des différents traités de l'Union, mais les commissaires européens se sont bien gardés de le mettre en application afin de pouvoir conserver intact leur pouvoir de nuisance technocratique. Avez-vous une dernière bonne nouvelle de ce genre? Le 11 février, j'apprends que les citoyens portugais ont traîné les pieds pour aller voter pour ou contre l'avortement. Seuls 44% des électeurs sont allés voter. D'après la loi portugaise, quel que soit le résultat, cette participation est insuffisante pour valider l'objet du référendum. Certes, 59% des votants ont dit oui à la dépénalisation de l'avortement, mais leur vote n'en est pas pour autant valide. Compte tenu de la participation d'ailleurs, cela fait que seulement un peu plus d'un quart des électeurs ont approuvé la légalisation de ce crime. Toutefois, l'avortement sera bientôt dépénalisé au Portugal. Comment est-ce possible? Le premier ministre portugais, José Socrates, a décidé de ne pas tenir compte de ce désaveu populaire implicite dans un pays à 90% catholique. Fort de cette majorité très relative, il va faire voter la loi dépénalisant l'avortement par le Parlement qui est à sa botte. Bref, il ne va pas respecter la règle. Quand le peuple vote mal ou pas assez bien, il faut passer outre, c'est sa conception de la démocratie. Tous ces démocrates, Andreas Gross, Eneco Landaburu, José Socrates, ont un point commun qui explique le pourquoi du comment ils sont démocrates. Lequel? Ils sont tous trois socialistes.